Fanègue, l'emmuré. Une histoire de fantôme, dit le docteur Legrand, tandis que mêlé à la fumée odorante des Havanes, le parfum troublant des roses montait dans l'air pur de ce soir d'été. Oui, j'en connais une, authentique, tragique aussi, qu'une suite de curieuses coïncidences me permit d'observer moi-même dès le début. Oh, à la réflexion, je puis vous la dire sans danger, car à présent, tous les acteurs de cette étrange histoire ont tous disparu, ou sont morts. Et tout pensif, le célèbre médecin s'arrêta comme pour rappeler ses souvenirs. Ses yeux perçants et mobiles fixèrent un moment le ciel nocturne, puis revinrent se poser sur ses compagnons. Il y avait là, entre le docteur Legrand, médecin des hôpitaux, et le comte Solassoff, un russe épris du mystère, plusieurs notabilités de l'art et de la science européenne. Le dîner annuel que le grand seigneur russe nous donnait et donnait à ses amis s'achevait. Les convives se groupaient sur la terrasse de la villa autour d'une table en bois de rose où était servi le moka parfumé. Presque sous les murs de la terrasse, les flots de la Méditerranée venaient doucement mourir et chantaient leur éternelle chanson. Au large, c'était l'admirable spectacle tant de fois décrit. La mer immobile, le ciel sans nuages, l'atmosphère idéale, la lune noyant toute chose dans une sorte de brouillard argenté. À l'époque où remonte mon histoire, continua le docteur, je débutais à peine et j'occupais un petit appartement sur la rive gauche près des quais. Mes journées s'écoulaient entre l'étude des maladies nerveuses, je poursuivais avec passion et l'attente souvent vaine des clients. Et j'eus la chance un matin d'éviter une chute grave au célèbre professeur X, qui dès lors me prit en amitié, s'occupa de moi activement et me fit faire, entre autres, des remplacements à la maison de santé de Neuilly. C'est là que débute mon histoire. J'étais donc de service un matin. Et ma visite terminée, je me disposais à partir lorsqu'on frappa à la porte. Un infirmier se présenta. « Monsieur le docteur, me dit-il, il a une femme désespérée. Son enfant est, paraît-il, évanoui dans une maison voisine. Elle ne peut trouver de médecin et demande de l'aide. Que faut-il faire ?» Je fis répondre à cette femme que j'étais prête à la suivre, et elle m'entraîna rapidement au dehors. J'avais devant moi une vieille grille autrefois dorée. On apercevait, au travers des barreaux, à moitié caché par la végétation touffue d'un jardin abandonné, un petit pavillon qui me parut dater de la fin du 18e siècle. L'aspect en était plutôt sombre, presque effrayant. Une indéfinissable tristesse, un sentiment vague d'épouvante émanait de ces vieux murs malgré la lumière d'un beau jour, malgré le ciel bleu sur lequel tranchait le toit d'asphyxie mansardée. Rapidement, chassant d'un effort cette mauvaise impression, je suivis la jeune femme en pleurs qui m'introduisit dans une grande pièce pauvrement meublée, au rez-de-chaussée, et sur un petit lit, un enfant de 6 ans gisait étendu. Noyé dans ses cheveux blonds, sa tête penchait légèrement en arrière, les yeux bleus, vitreux, étaient à moitié fermés. Le nez pincé, livide, la bouche entrouverte, et un examen attentif était hélas inutile. Du premier coup, je reconnus la mort. Le pauvre enfant était déjà froid. Ses petits bras raidis semblaient vouloir repousser une apparition terrifiante. Mon regard éclaira la mère qui s'écroula sur le petit cadavre en sanglotant éperdument. J'attendis longtemps, n'essayant pas de consolation superflue, et mot par mot, j'appris de la malheureuse que son fils était endormi la veille en parfaite santé et qu'elle l'avait trouvé le matin sensible et froid. Elle avait cru à un évanouissement et était aussitôt sortie pour chercher du secours. Dans l'intérêt de mon récit, continua le praticien, il vous suffit de savoir que l'autopsie ne révéla en aucune façon le secret du mystère. Nul organe vital n'était attaqué. Seule la force nerveuse, ce que Bonis appelle la force neurique rayonnante, semblait avoir été soutirée par une étrange et puissante machine pneumatique. L'enfant s'était éteint comme une lampe privée d'huile, et tout était intact en lui. Des jours passèrent, la famille éprouvée avait déménagé, et les portes du pavillon tragique s'étaient refermées. Malgré moi, cette mort me préoccupait. Forcé de passer chaque jour devant la maison, le désir d'en savoir davantage me hantait de plus en plus. Si bien qu'un jour, j'entrais demander au gardien qui habitait une petite construction près de la grille, la clé du pavillon. Cet homme, qui d'ailleurs me connaissait, me la remit avec une certaine hésitation. L'expression de ses traits me parut même si bizarre que je résolus de l'interroger après ma visite. Je traversais vivement le jardin, autrefois sablé, maintenant envahi par les herbes sauvages, et j'entrais. Et aussitôt, comme la première fois, la même impression étrange s'empara de moi. C'était une angoisse vague, une pression mystérieuse sur le cœur, une difficulté extraordinaire de respiration, un commencement d'épouvante sans cause. Je me trouvais dans un couloir damné et d'aller et terminer par une porte vitrée donnant sur le jardin. Au fond, à gauche, un escalier de bois montait au premier étage. À droite, une grande porte à double battant, portant encore des traces de sculptures dorées et surmontées d'un panneau peint au personnage effacé. Et à gauche, près de l'entrée, la porte de la chaumière, la chambre mortuaire, et j'entrais. C'était une grande pièce, carrée, à 2 fenêtres. Au fond, une cheminée de marbre blanc, surmontée d'une glace au cadre terni, dont la surface verdâtre semblait vieillie et morne d'avoir reflété tant de souffrances humaines. Le barquet était en mauvais état. Les murs très épais étaient recouverts de vieilles tapisseries disparates qui, par endroits, tombaient en lambeaux. Je remarquai une alcôve vide, une sorte de grand placard pratiqué dans l'épaisseur des murailles. Et à droite de l'alcôve, une petite porte. J'ai toujours été sensible à ce que l'on pourrait appeler l'action occulte des choses sur l'organisme humain. Et mon malaise augmentait, malgré ma volonté. Debout, au milieu de la chambre, je fixais involontairement les yeux sur l'eau verte de la glace, et peu à peu, je cessais d'y apercevoir mon image. Et moi, le médecin sceptique, je peux voir refléter un fantôme. Deux yeux en même temps, si furieux et si tristes, d'une tristesse surhumaine, seuls très visibles dans un visage moins bien formé. Alors je haussai les épaules et détournai la tête avec effort. Je sortis rapidement au grand jour et en respirant l'air frais du matin, ma gêne disparut entièrement. Le concierge était là, m'attendait et paraissait inquiet. Je lui remis la clé et son pourboire. Monsieur n'a pas l'intention de louer, me dit cet homme d'un ton presque suppliant. Monsieur n'a pas d'enfant. Non, je ne veux pas louer. Mais je voulais revoir l'endroit où est mort cet enfant l'autre jour. Oh, tant mieux, soupira-t-il d'un air radieux. J'en ai assez, moi, de ces enterrements d'enfants. C'est terrible aussi, monsieur. Pensez que depuis 10 ans, c'est le 8e enfant mort en une nuit et sans maladie. Il paraît qu'avant moi, c'était la même chose. Et si le propriétaire persiste à louer, oh, moi je m'en irais. J'aime mieux risquer la misère que de voir ainsi mourir tant d'innocents. Comment, dis-je, vous ne vous trompez pas? La pièce a-t-elle été désaffectée? Mais oui, monsieur, chaque fois et soigneusement. Je vous en réponds. On n'a rien négligé. Et cependant, tout enfant couchant dans cette chambre est toujours mort en une nuit et sans maladie apparente pendant son sommeil. Et tous ont le même geste d'effroi, la même expression d'angoisse. Aussi l'ont-on difficilement, et à de pauvres gens seulement. Et il se tut. Je m'éloignais, tout pensif, après avoir remercié le brave homme. Puis l'enquête discrète dans le quartier me permit d'acquérir la certitude qu'il n'avait rien exagéré. Tout était exact. À cette époque, je n'avais aucune notion d'hyperphysique. Et vous savez avec quel soin, même aujourd'hui, je suis obligé de cacher mon opinion sur l'occulte et sa merveilleuse synthèse. Aucune méditation, aucun effort ne pouvait donc éclaircir pour moi l'angoissant mystère. Les années passèrent, continua le docteur Legrand. Le souvenir de ces morts bizarres s'effaçait peu à peu, mais cependant, pas entièrement. Et de temps en temps, lorsque les circonstances m'y ramenaient à Neuilly, j'allais jeter un coup d'œil sur le pavillon qui n'avait pas été loué depuis. Oh, je n'aurais probablement jamais eu l'explication de ces faits étrange, c'est une coïncidence qui, à bien réfléchir, est peut-être bien en elle-même aussi extraordinaire et qui a été le fruit de mes études occultes. ne s'était présenté il y a une dizaine d'années. J'avais accepté de soigner un vieux prêtre recommandé par des amis et qui n'avait du reste aucune maladie que ses 80 ans. Je m'étais pris d'amitié pour lui et nous discutions parfois longuement sur les éternels problèmes de la conscience, de la survie et de la responsabilité humaine. Oh, nous n'étions pas souvent du même avis, et en matière de religion romaine, surtout, nos esprits étaient loin de s'entendre. Cependant, je lui accordais certains beaux côtés de la vie ecclésiastique et, entre autres, l'admirable énergie, la belle ténacité que les prêtres même les plus mondains mènent et ont mis de tout temps à garder le secret de la confession. Eh oui, me disait un jour mon vieil ami, il n'y a pas d'exemple qu'un prêtre, même tombé, l'a trahi. Et parfois, cependant, il donne lieu, ce secret, à de bien pénibles cas de conscience. Et après ma mort, je vous ferai parvenir des pages de notes, parmi lesquelles vous trouverez la relation réellement tragique d'une des plus terribles situations où je me suis trouvé dans ma longue existence. Vous devrez garder ce secret pendant 10 ans après ma mort. Mais à ce moment, il n'y aura plus aucun inconvénient à ce qu'il soit connu. Quelques mois après, je reçus presque en même temps la nouvelle de la mort de mon vieil ami et un assez volumineux paquet. C'était des notes, des plans, de conférences, d'intéressantes études théologiques, des traductions de latin et de grec et d'hébreu. Mon attention fut attirée par une enveloppe sur laquelle étaient écrits ces mots: pour le docteur X, à ouvrir après ma mort. Le souvenir de notre dernière conversation me revint brusquement et je pris connaissance du document. Vous comprendrez toute la stupéfaction que j'éprouvais en présence d'un des plus extraordinaires enchaînements de capricieux destins qui m'avait été donné de rencontrer. Vous me comprendrez dès que vous aurez entendu la lecture de ce dramatique récit qui paraîtrait bien plus vraisemblable au XIIIe siècle qu'au XIXe. Le docteur tira de son portefeuille un papier jauni qu'il déplia et il lut. Près de paraître devant Dieu, écrivait le vieux prêtre, je me sens poussé par une force surnaturelle à écrire la relation des événements les plus tragiques de mon existence. Et peut-être est-il dans les desseins de la divine providence que ce récit ait un jour son utilité. J'ai consacré ma vie à réaliser le vrai en moi et autour de moi. Et de plus, les mourants ne mentent pas. Je n'ai donc pas besoin d'affirmer l'exactitude minutieuse de ce qui suit. J'ai aujourd'hui, le 1er janvier 1912, 90 ans. Je suis sain d'esprit, et si mon corps est fatigué, ma mémoire est plus sûre que jamais. Mais, pour certaines raisons, je ne veux pas fixer de date exacte à ce récit. J'étais alors tout jeune prêtre, et j'avais été nommé vicaire à la petite paroisse de X, près de Paris. Le curé s'étant un jour absenté dès le matin, j'étais seul dans le petit jardin du presbytère. Il pouvait être 8 heures du soir et la nuit était proche. Et j'allais rentrer lorsque, La petite clochette de la barrière tinta doucement. Je vis accourir un enfant du pays, porteur d'une lettre ainsi conçue. Monsieur le curé de X est instamment prié, au nom de la charité chrétienne, de venir donner ce secours de la religion à un mourant. Il le trouvera au détour de la route une voiture. Qu'il veuille bien y monter. Qui t'a remis cette lettre? Demandai-je à l'enfant. C'est un monsieur dans une voiture, monsieur l'abbé. Je réfléchis un instant, et malgré le côté mystérieux de cette convocation, peut-être même à cause de lui, car j'étais très jeune, j'allais prendre le nécessaire à la sacristie et sortir sur la route. La nuit était venue, et ce fut avec une certaine difficulté que je trouvai la voiture dont les lanternes étaient éteintes. Je m'approchai, la portière s'ouvrit, une main me fit signe de monter, et aussitôt, les chevaux partirent au galop. La plus profonde obscurité régnait dans l'intérieur de la ferme, la berline. Un peu ému, j'entendis une voix douce me dire à l'oreille « N'ayez aucune crainte, monsieur le curé, vous ne courez aucun danger, mais il ne faut pas que vous sachiez où nous allons. Il est nécessaire que vous nous laissiez bander les yeux. Oh, si vous hésitez, sachez qu'une créature humaine va, par votre faute, mourir sans être réconciliée avec Dieu. » Et au même moment, je sentis un bandeau de soie m'entourer le front et me fermer les yeux. Puis ce fut le silence. La voiture roulait toujours. Il est très difficile, dans l'état où je me trouvais, d'évaluer le temps. Cependant, il me semble que 2 heures au moins s'étaient écoulées lorsqu'enfin les chevaux s'arrêtèrent. On me fit descendre, je sentis le sable sous mes pas, et ma joue était entourée par une branche humide. Une porte grinça, je franchis le seuil, et on m'enleva mon bandeau. Oh, j'étouffais avec peine un cri d'effroi. Comment rendre cette terrible scène? Oh, ce n'est pas que je n'ai rien oublié. Tous les détails, après tant d'années, sont encore présents à ma mémoire. Mais je ne sais comment, il faut comprendre l'horreur. Je me trouvais au centre d'une assez grande pièce, à 2 fenêtres, complètement aveuglé par des paires rideaux de velours noir, et devant moi une cheminée de marbre blanc surmontée d'une glace ancienne. À ma droite, une alcôve, et à côté, un grand placard, sorte d'armoire pratiquée dans le mur. La lumière d'un grand candélabre à nombreuses bougies éclairait. Au fond de ce placard, les traits terrifiés d'un homme jeune encore, aux yeux noirs, agrandis par l'épouvante. Oh, il ne criait pas, mais une sueur d'agonie coulait sur son front. La tête seule paraissait encore, et le corps maintenu droit dans une maçonnerie toute fraîche était déjà muré. À gauche, 2 hommes, vêtus de noir et soigneusement masqués, se tenaient immobiles. Je fermai les yeux pour ne plus voir ce terrible spectacle, et la même voix douce, certainement déguisée, me fit brusquement ouvrir. « Monsieur le curé, ne cherchez jamais à savoir où vous êtes et qui nous sommes. Vous n'y parviendriez pas. » Nous sommes des justiciers et non des assassins. Nous nous éloignons un instant. Entendez en confession celui qui va mourir. Et restez pour lui, récitez les prières des agonisants. On n'essayait pas de changer quoi que ce soit à notre décision. Ce serait inutile. Remplissez le devoir de votre ministère et faites vite. Que pouvais-je faire, seul, dans un endroit inconnu? Ces deux hommes jeunes, énergiques, évidemment armés, apparaissaient animés de la plus sombre résolution. Néanmoins, j'ai essayé de les attendrir, mais ce fut en vain. Au moment où je quittais la chambre, un des hommes se baissait, plaçait les pierres et continuait le lugubre travail. Un ou deux cris terribles, bientôt étouffés, pendant qu'on m'entraînait, et ce fut tout. Nous partîmes, et quelque temps plus tard, j'étais de retour à la cure de X. Je n'avais pas promis de ne rien tenter pour découvrir si la mystérieuse maison du crime. Aussi, après avoir pris le conseil de mes supérieurs, je courus faire ma déclaration à la justice, en gardant toujours, bien entendu, le secret de la confession. Tout fut inutile. Vainement on m'interrogea, vainement les recherches les plus minutieuses furent entreprises. Jamais le moindre indice ne fut trouvé. Les coupables, qui certainement appartenaient aux plus hautes classes de la société, demeurèrent toujours à l'abri de la justice humaine. Puisse la justice divine ne pas leur demander un compte trop sévère de leur acte, dont je connais le mobile, et que je ne puis m'empêcher, non d'excuser, ni d'absoudre, mais peut-être, en me plaçant au seul point de vue humain, de ne pas trouver entièrement incompréhensible. Telle fut, mes amis, l'étrange révélation dont la lecture me plongea dans la stupéfaction la plus grande, dit le docteur Legrand, en replaçant le document dans son portefeuille. Vous le devinez sans doute, ce qui m'étonna le plus, ce ne fut pas le crime en lui-même, bien que rare et extraordinaire, mais la description de la pièce où il avait eu lieu. J'eus instantanément la certitude intérieure que cette chambre à alcôve, je la connaissais et qu'elle se trouvait dans le pavillon de Neuilly. Pourquoi je n'en savais rien? Et je luttais longtemps avec moi-même. Et je me dis, quelle aurait été l'issue de ce combat entre ma raison et mon intuition si je l'avais fait précisément à cette époque la connaissance du docteur Suppa, le chef du mouvement occulte et spiritualiste en France. Il m'avait intéressé en me prouvant d'abord, par des faits, la supériorité de la médecine dentisymétrique et de l'homéopathie. Et en m'enseignant la médecine mentale véritable, puis il m'avait initié à l'étude de la philosophie occulte et de la synthèse irrationnelle. Et un jour, nous étions réunis chez lui à Auteuil et nous avions examiné des documents se rapportant à la question du vampirisme. Preuves en main, il m'avait convaincu que rien au monde n'aurait pu être plus certain si on admet le témoignage humain. Procès-verbaux, des enquêtes judiciaires, récits signés et déguisés et légalisés des témoins, et cela en très grande quantité. Vous savez tous en quoi consiste ce phénomène troublant et terrible, dans la mort du corps grossier. Un lien subsiste entre lui et le double, et ce dernier, entraînant une bonne partie de la matière éthérique et de la matière physique, pénètre dans certaines maisons et s'attaque de préférence aux enfants. Il approfondit leur sommeil et par une inspiration indescriptible, soutire la force vitale et même une bonne quantité du sang de leur victime. Puis il retourne vers le cadavre et puise les fluides physiques nécessaires à la continuation de la macabre et mortelle besogne. Parfois, l'action des vampires est ressentie au seul endroit où est déposé le corps, et parfois ils jouissent d'une certaine liberté et peuvent s'éloigner. On met un terme à leur forfait en enfonçant un pieu dans le cœur et en brûlant le cadavre. Enfin, en certains cas, le phénomène cesse de lui-même pour des raisons inconnues. Nous prolongeâmes fort tard notre causerie ce soir-là, car je voulus raconter l'histoire des morts d'enfants et celle de l'emmuré. Et je lui dis comment, malgré moi, j'établissais un lien entre elles et comment, sans raison valable, je pensais que la chambre de l'emmuré était la même que celle de la villa de Neuilly. Mon maître réfléchit un moment et me dit qu'à son avis, il pourrait être utile de s'en assurer. Le propriétaire fut mis au courant dès le lendemain, et quelques jours après, des recherches furent entreprises dans la fameuse chambre hantée. Le placard ouvert, on mit bientôt à jour une maçonnerie moins ancienne que celle du mur. Et après plusieurs heures de travail, le cadavre momifié d'un homme apparut. Les vêtements étaient tombés en poussière. Le squelette avait encore la peau sur toute son étendue. Cette peau était entièrement racornie et sèche, et les organes spleurgiques n'existaient plus. Ah, si, tout était vrai. Je ne m'étais pas trompé. Et nous nous trouvions bien dans la chambre du crime qui, vers 1852, avait eu lieu la scène dramatique racontée par le vieux prêtre. Le mystère était éclairci, au moins en ce qui concernait la mort subite des enfants. Le vampirisme avait été, dans ce cas, restreint à la chambre même, et seuls des organismes faibles en avaient ressenti la funeste influence. Un silence impressionnant accueillit les dernières paroles du docteur Legrand. La nuit s'était voilée au loin d'épais nuages. Mais est-ce que nous ne savons pas, dit l'un des convives, on construirait un monde.